vous suit.
Voici les titres du journal.
L'exposition de projets ayant participé au concours en vue du réaménagement de la place du marché à Aigle a démarré hier soir. Les parkings seront payants le dimanche à Vevey et à la Tour de Paix à compter de cet été. Les deux communes l'ont annoncé en début de semaine et malgré les apparences, cela ne présente pas que des désavantages. Les exportations suisses de matériel de guerre ont reculé de 18% à 742,8 millions de francs l'an dernier par rapport à 2020. On en parle dans ce journal en compagnie de notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Du sport aussi dans ce journal, en rink hockey, la mission sauvetage du Montreux HC est toujours aussi compliquée avant le début des play-outs de Ligue Nationale A. Et en rugby féminin, la fin de l'hiver est synonyme de reprise pour les Mermigans en Ligue Nationale A.
Pour la météo, du soleil nous est annoncé pour cet après-midi, du soleil encore et toujours pour ce week-end. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Le canton de Vaud lance un appel à la prudence en raison du danger d'incendie de forêt à cause d'un déficit de précipitations marquées et de températures élevées pour la saison. Le danger est désormais fixé au niveau 2. Vaud ajoute dans un communiqué de presse qu'il est toujours possible d'allumer des feux en forêt, mais uniquement dans les endroits désignés pour et surtout de bien éteindre le feu lorsque l'on quitte le lieu.
Les quatre projets ayant participé au concours concernant le réaménagement de la place du marché à Aigle sont désormais exposés.
Oui, ils sont visibles jusqu'au 15 avril prochain à l'hôtel de ville local. Parmi eux, Crapaud fou, le dossier lauréat choisi par le jury et dessiné par un consortium interdisciplinaire. Le piéton y sera roi autour de fontaines et d'espaces végétalisés. Et ce projet séduit le syndic d'Aigle, Grégory Deveau, notamment parce qu'il fait honneur à la mobilité douce. Grégory Deveau.
Probablement qu'un projet tel que celui-là, il y a 10 ans, aurait eu de grandes difficultés à passer la rampe. Et puis aujourd'hui, ça semble assez naturel de ramener, voilà, plus de végétation, plus d'espace pour les piétons, pour les commerçants aussi, pour des animations, bien sûr. Et puis, canalise un peu plus ces voitures, tout en les interdisant pas, bien sûr. Mais en tout cas, pour la traversée est de la place, c'est le but d'amener un cadre de vie idéal pour tout un chacun au centre.
Et il n'était plus assez convivial?
Je pense qu'il y a eu une évolution qui s'est faite au fil des années. Les constructions des années 60 ont amené une vraie différence. On a donné beaucoup plus de place à la voiture. Les rues d'antan, finalement, redeviennent les rues d'aujourd'hui. On souhaite un peu plus avoir des hiérarchies de routes qui soient définies. Et puis ramener du commerce, c'est ça qui fait vivre une ville. Une ville, elle vit par ses commerçants, par ses associations. La vie en ville, c'est pour nous extrêmement important. Si on peut y développer des terrasses, des commerces, des marchés, et on a besoin de place. Et puis cette place, elle est donnée aujourd'hui par ce projet.
Alors le calendrier, pour terminer, Grégory Deveau. Ça va se passer comment? Ça va être encore long?
Il y a encore un petit peu de temps. Là, on est justement dans la phase exposition. On a le projet qui est un avant-projet. Donc, on va le finaliser pour vraiment aboutir d'ici la fin de l'année 2022 sur un projet final qui donnera ensuite lieu à l'établissement d'un préavis au conseil communal. Et puis, une fois validé ce préavis et le crédit d'investissement qui était d'ores et déjà planifié, on pourrait imaginer des travaux, disons, courant 2023, plutôt sur la deuxième partie, pour se terminer en 2024.
Vous dire encore que le projet de réaménagement de la place du marché d'Aigle, de l'avenue Chevron et la rue Plantour est devisé à quelques 7 millions de francs.
Vevey, la Tour de Paix se met au diapason en matière de stationnement.
Les deux communes de la Riviera ont annoncé plusieurs mesures en début de semaine. Elles entreront en vigueur dès l'été. Explication d'Antoine Dormont, municipal chargé de l'urbanisme et de la mobilité à Vevey.
L'objectif, c'était d'étendre la tarification au dimanche. Pourquoi ? Parce que le dimanche, on observe beaucoup d'infractions avec du stationnement hors case, du stationnement sur des zones piétonnes, alors qu'en parallèle, la majeure partie des parkings souterrains en ouvrage et existants sont pratiquement vides. Donc l'objectif, c'était vraiment de reporter cette problématique du stationnement en surface dans les parkings en ouvrage.
Une autre mesure concerne la tarification. La Tour de Paix s'aligne sur Vevey, ce qui signifie que les Boëlans paieront dès cet été 2 francs l'heure contre 1 franc 20 actuellement. Et cela n'a pas échappé à certains citoyens de la commune qui se demandent s'il est judicieux de se calquer sur une commune qui peine à trouver des solutions de stationnement. La réponse d'Élise Kayser, la municipale chargée de l'urbanisme et des travaux publics à la Tour de Paix.
Je tiens à préciser qu'on a adapté uniquement les tarifs et non la manière de stationner, qui est peut-être le point litigieux par rapport à Vevey. Donc notre stationnement ne change pas. Et notre but, c'est vraiment de reporter en fait, les voitures dans le parking souterrain pour favoriser le parkage en sous-sol et diminuer le parking en surface, qui crée quand même du trafic indésirable.
Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce n'est pas
tout le territoire de la Tour de Paix qui deviendra payant. Il y a vraiment des zones bien définies.
Oui, exactement. C'est uniquement les zones payantes actuellement qui seront payantes. Mais le reste de la commune restera gratuit en stationnement à disque, comme c'est le cas actuellement. Donc ça, il n'y a pas de modification sur le reste du territoire communal.
Des propos recueillis par Quentin Frey. À noter que côté Vevezan, les tarifs des parkings couverts sera réduit les dimanches à 1 franc l'heure et maximum 5 francs par jour. Lausanne accueille demain la 10e édition de la fête de la forêt à Sauvablin, organisée par la ville et l'association Abracadabra. La manifestation vise à mettre en valeur le patrimoine forestier et arboré de la capitale vaudoise. Un parcours pédagogique a notamment été imaginé au départ de la tour de Sauvablin. Le festival qui avait été annulé ces deux dernières années en raison du coronavirus propose aussi divers ateliers et jeux forestiers pour les enfants. Le public pourra encore assister à des démonstrations de débardage à cheval et de tonte des moutons. Concerts et stands de nourriture seront aussi proposés. Pour la petite histoire, les forêts lausannoises couvrent 35% de la superficie communale. Les membres du PDC du Valais Roman réunis en congrès à Comté ont accepté hier soir à une large majorité de rebaptiser le parti. Il s'appellera désormais Le Centre, comme le Parti National. Le nom Le Centre Valais Roman a été accepté par 328 voix contre 20 et 7 abstentions, comptant comme des noms. Lors d'un vote à main levée, la majorité qualifiée des deux tiers a ainsi été atteinte. Le Valais a choisi comment répartir les fonds en faveur des mesures de protection des troupeaux. Dans le cadre du budget 2022, le Grand Conseil avait adopté un financement supplémentaire d'1 million de francs en ce sens. Sur le principe, ce million sera divisé en 3 blocs, indique l'État du Valais dans un communiqué. D'abord, l'aide directe aux exploitants sur les alpages déjà protégés et pour de nouvelles mesures de protection sur ceux non protégeables économiquement. Le second bloc sera pour le soutien des projets en lien avec la protection des troupeaux et le troisième pour le renforcement du conseil aux exploitants et tout ceci afin de maintenir une activité pastorale sur les 150 alpages que compte le canton. Le cycle d'orientation de Monté lance un défi à ses élèves nommé la Screen Detox. Cela consiste à se passer d'écran pendant une semaine avec l'idée d'instaurer ainsi des habitudes saines et déconnectées. Et cela débute le 27 mars à minuit et se termine le 1er avril. Mais le cycle propose aussi des ateliers pratiques autour de la question écologique et climatique. En effet, pour ses 50 ans, il a mis en place un projet pédagogique intitulé « Le CO se met au vert », un projet qui démarre la semaine prochaine. Les archives de l'État du Valais propose une série d'événements dans le cadre du cycle Archives et Durabilité. Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au 11 juin, une exposition aux Arsenaux à Sion, 4 ateliers publics, une tournée à la rencontre de la population valaisanne et en point d'orgue, une journée portes ouvertes coïncidant avec le centenaire de l'Association des archivistes suisses sont organisées pour faire découvrir le travail de conservation du patrimoine valaisan. Actualité nationale, une femme de 62 ans a été victime de faux policiers dans le canton de Turgovie. Elle leur a remis environ 1,5 million de francs en argent liquide et en or. Une femme se faisant passer pour une policière a appelé la sexagénaire au téléphone pour lui signaler que des données la concernant avaient été trouvées lors de l'arrestation de malfrats. La fausse policière a réussi à convaincre la victime de lui remettre de l'argent liquide et de l'or pour faciliter l'arrestation d'autres malfaiteurs, a indiqué aujourd'hui la police cantonale turgovienne. L'argent et l'or ont été déposés par la femme de 62 ans à des endroits convenus. Les inconnus les ont récupérés. Le montant total du délit s'élève donc à environ 1,5 million de francs.
Ouch. Après le record de l'année 2020, le volume du matériel de guerre exporté par l'industrie suisse s'est tassé en 2021.
Oui, il s'est tassé à 742,8 millions de francs. Toute exportation doit être autorisée par le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, qui n'en a refusé que 3 l'an dernier. La Suisse exporte ses armes principalement vers les pays européens ou les États-Unis. L'Arabie saoudite fait aussi partie de la liste, ce qui génère régulièrement des polémiques. Mais le SECO assure que les livraisons suisses ne finissent pas au Yémen. Sachant que les pays européens fournissent du matériel à l'Ukraine pour se défendre, des armes suisses peuvent-elles être utilisées dans la guerre en Ukraine? On écoute la réponse du chef du secteur de la maîtrise des armements au SECO, Simon Plus.
J'espère pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des indices qu'on a trouvé des armes de la provenance de la Suisse. Il faut tenir compte du fait que la Suisse demande une déclaration de non-réexportation si on donne des autorisations pour l'exportation. Et à cause de ça, en principe, les pays qui reçoivent des armes de la Suisse, en principe, c'est interdit de réexporter des biens de la Suisse.
Et vers la Russie et vers l'Ukraine, est-ce que par le passé, on a pu exporter des armes qui aujourd'hui pourraient être utilisées?
On a décidé une interdiction interdiction depuis 2014, en contexte avec l'annexion de la Crimée. Les années avant cette époque, c'est-à-dire entre 2000 et 2013, on n'a pas eu beaucoup d'exportations vers ces deux pays. Il s'agissait des biens qui étaient prévus pour la protection interne de certaines personnes à haut niveau, mais ce ne sont pas des armes qui peuvent utiliser dans la guerre.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. Les comptes 2021 du canton de Zurich bouclent avec un excédent de recettes de 758 millions de francs. Le budget prévoyait un déficit de 926 millions. Ce résultat s'explique notamment par des recettes fiscales et un versement de la BNS supérieur aux prévisions. Puis cette petite information gourmande pour enchaîner, pour vous dire que la consommation de fromage par personne en Suisse a augmenté de 100 grammes en 2021, indiqué ce matin dans un communiqué de presse l'Union des producteurs Suisse de lait. Les habitants du pays ont ainsi consommé en moyenne plus de 23 kilos de fromage par personne sur une année. Le Grand Conseil fribourgeois a voté aujourd'hui un postulat demandant la recension du patrimoine alpestre en main de l'État de Fribourg. L'instrument propose aussi de cerner la stratégie de sa sauvegarde et de sa valorisation, qu'il soit en main publique ou privée.
À l'étranger, en Ukraine, environ 300 morts sont redoutés dans le théâtre de Mariupol.
Théâtre, on le rappelle, bombardé par l'aviation russe le 16 mars, alors que des centaines de personnes y étaient abritées, a annoncé aujourd'hui la mairie de la ville, citant des témoins. Par ailleurs, un bombardement russe sur un centre médical de Kharkiv, dans l'est du pays, a fait 4 morts et au moins 3 blessés, a-t-on appris ce matin du côté de la police régionale de la deuxième ville du pays. Toujours dans la guerre en Ukraine, la Russie a démenti aujourd'hui toute violation du droit international, après avoir été accusée par l'Ukraine d'avoir utilisé des bombes au phosphore dans le cadre de son intervention militaire dans ce pays voisin. De son côté, l'Ukraine a demandé ce matin à l'Union européenne la fermeture de ses frontières avec la Russie et le Bélarus. Principal suspect dans la mort à Paris de l'ex-rugbyman argentin Federico Martín Aramburu, Loïc Le Priol va être remis par la Hongrie aux autorités françaises dans un délai de 10 jours, a annoncé le tribunal de Budapest aujourd'hui. Le jeune homme de 27 ans avait été interpellé mardi soir au poste frontière de Zaonid dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, et cela alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine. Intervenant par visioconférence à l'audience, il a donné son accord à son transfert, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Loïc Le Priol est apparu calme et coopératif et il a refusé de s'exprimer sur l'affaire. Il avait auparavant expliqué à la police vouloir rejoindre l'Ukraine pour combattre. 3 couteaux ont été saisis dans sa voiture. Du sport pour poursuivre ce journal. Tennis, Belinda Bencic a signé un sans faute hier pour son entrée en lice dans le tournoi WTA 1000 de Miami. La championne olympique a écrasé Marta Kostiuk 6-3, 6-1 au deuxième tour. Exemptée de premier tour en tant que tête de série numéro 22 du tableau, Belinda Bencic n'a mis que 68 minutes pour prendre la mesure de l'Ukrainienne. Elle s'est montrée particulièrement efficace sur son engagement, ne perdant au total que 7 points en 8 jeux de service. La Saint-Galloise affrontera en 16e de finale la Britannique Heather Watson, tombeuse au deuxième tour d'Elina Svitolina.
En rink hockey, le spectre de la relégation est toujours aussi menaçant pour Montreux.
Les Vaudois vont jouer leur maintien durant les play-outs de Liga. Lanterne rouge du classement, la formation de la Riviera a concédé une nouvelle défaite hier soir à la salle du Pierrier à Clarens. Les Montreusiens se sont inclinés 2-0 dans un derby roman sans saveur contre Genève. Face à une équipe du haut du classement, les joueurs du MHC n'ont jamais trouvé la clé. Ils ne se sont procurés que très peu d'occasions de but, un problème qu'il va falloir tenter de résoudre en vue des play-outs. Mais ces parties ont aussi cette utilité-là, à en croire le capitaine du Montreux HC, Marc Monnet.
Ça nous permet aussi d'essayer des choses, de mettre en place notre jeu, d'avoir du temps de jeu en match, voir ce qui a été, de retenir le positif, de voir ce qui n'a pas été, pour ensuite travailler ça pour les play-outs et voilà, contre des équipes qui potentiellement sont un peu plus faibles, réussir à tirer des bonnes leçons de ces matchs un peu plus compliqués et plus difficiles.
Les play-outs, 8 matchs à jouer. Sur quoi ça va se jouer finalement pour essayer de se maintenir, pour essayer de sauver sa peau?
Ça va se jouer à la détermination. Je pense que sur les 5 équipes qui vont jouer les play-outs, tout le monde va lutter les 50 minutes et plus s'il faut à 200%. Et ça va être à celui qui physiquement, techniquement et dans la tête lâche le moins et arrive à faire le jeu qu'il a prévu de faire pour arracher la victoire à chaque fois.
Avec cette 10e défaite concédée dans le temps réglementaire cette saison, les Montreuxiens restent scotchés à la dernière place du classement. À un match de la fin de la saison régulière, la relégation Ligue B est une menace de plus en plus réelle pour les Vaudois. Tout se jouera donc durant le tour de play-out. Marc Monnet revient sur cette situation difficile.
Disons qu'au niveau du championnat régulier, on n'a pas trop de, on se fait pas trop d'illusions. On sait que ce sera les play-out pour nous. Donc du coup, maintenant, c'est vraiment essayer de marquer encore ces trois derniers points durant le dernier match pour arriver en play-out avec le maximum de points et pouvoir sauver notre peau pour les play-out et finir pas dans les deux derniers.
Des propos recueillis par Julien Traxel pour son dernier match de saison régulière avant d'entamer les play-outs de Liga. Montreux accueillera le RHC Biasca le samedi 9 avril à la salle du Pierrier.
En rugby féminin, l'heure est à la reprise pour les Mermigans.
Les Mermigans, même.
Mermigans.
Oui, je l'ai. Je vous rassure, Axel. Je l'ai appris aussi tout à l'heure. Des fois, on ne sait pas trop bien comment prononcer, mais il paraît qu'on dit Mermigans. Voilà.
À l'anglaise.
Moi, je connais exactement. Et puis, je ne connaissais même pas l'existence des Mermigans. Donc, on apprend de tout et tous les jours, et c'est ça qui est assez sympa. L'entente, composée de joueuses de Monté, Nyon et Haute-Broye, va retrouver la Ligue nationale à ce week-end. Et pour ce premier duel du deuxième tour de la saison, elle accueille les Red Wolves au stade du Vernet demain après-midi. Actuelle deuxième du classement, la formation Valdo-Valaisanne entend conserver son titre national qu'elle avait remporté d'ailleurs en 2019. Depuis la pandémie et le club de Lucerne sont passés par là. Si un écart de 4 points sépare actuellement les deux équipes, elles se retrouveront toutefois dans deux semaines en terre montaisanne. Mais avant cela, les Mermigans reçoivent les Bernoises des Red Wolves dès demain. L'occasion de reprendre le rythme avant le duel important, comme le précise leur entraîneur Rémi Borias.
Le match de samedi à Monté contre Berne va nous servir de test pour voir un peu où on se situe, et puis on va mettre en place des choses qu'on voudra utiliser contre cette équipe de Lucerne qu'on a étudié. On a étudié un peu leur jeu, donc ça va être la grande répétition puisqu'on reçoit Lucerne le dimanche 3 avril à Monté à 14h. Donc ça va être un gros rendez-vous. On va se préparer et puis on va essayer d'aller chercher peut-être cette première place et de ne pas la lâcher.
Ce sera ça l'ambition, on le rappelle, les Mermigans sont championnes de Suisse en titre, ça commence à remonter, ça date de 2019, mais ça va être l'objectif de conserver ce titre national.
Alors l'ambition, bien sûr, c'est déjà gagner nos matchs, de se qualifier pour les demi-finales, seules les quatre premières seront qualifiées. Après, le fait de finir première ou deuxième, ça nous permet de jouer soit contre le troisième, soit contre le quatrième, et surtout de jouer la demi-finale à domicile. Donc, être dans les deux premières, c'est clair que c'est un objectif. Et après, en demi-finale, forcément, je ne vais pas te dire que l'objectif est de perdre. Donc, on va se donner les moyens de peut-être s'offrir une deuxième finale en 3 ans. Et puis, bien sûr, si on mérite de gagner le titre, peut-être qu'on le gagnera.
Rémi Borias qui répondait aux questions de Julien Traxel. Cette première rencontre pour les Mermigans aura donc lieu demain après-midi en Ligue nationale à féminine. L'entente qui regroupe Monté, Nyon et Haute-Broye accueille les Red Wolves dès 15h au stade du Vernet. Vous avez vu, Axel, les Mermigans, vous et moi, ne mourrons pas idiots. On a appris quelque chose aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yves. Bonne journée.
Bonne journée à tous.
L'actu en continu, radiochablais.ch.
La météo avec Espace Torgon Liberté. 130 km de glisse à deux pas de chez vous. Plus d'informations sur torgon.ch.
Du soleil pour cet après-midi avec toutefois la possibilité de voir des cumulus sur les reliefs, mais le temps restera très probablement sec. Il va faire jusqu'à 16 degrés en pleine, 15 à 1000 mètres et 9 à 2000. Pour ce week-end, un temps ensoleillé nous est promis par Météo Suisse avec quelques cumulus sur le relief l'après-midi, mais restant très probablement sec. Et puis pour dimanche aussi, des voiles de nuages élevés qui nous sont signalés à partir du sud. Tout ça reste bien entendu à confirmer. Les premières tendances pour les températures de 4 à 17 degrés en pleine, de 4 à 16 à 1000 mètres et de 3 à 10 à 2000 mètres.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ch.